السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم البقي وغيره لا يدوم، رفع السماء وزينها بالنجوم، وأمسك الأرض بالجبال في النخوم، صور بقدرته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في السور فإذا الميت يقوم، فريق في الجنة وفريق في السعير في النار السموم. أما بعد، hier nous avons commencé l'étude des 10 grands signes de la fin du monde. Et avant d'entrer dans cela, on avait cité que les signes de la fin du monde sont de 3 sortes. Donc, premièrement, les signes qui sont apparus et se sont arrêtés, comme l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, les signes qui sont apparus et qui ne cessent d'augmenter. Une seconde. Troisièmement, les signes qui ne sont pas apparus et qui viendront, et cela très proche de la fin du monde. Et le signe déclencheur de tout cela est Bi'athatul Mahdi ou Zuhurul Mahdi. Ensuite, on a parlé de l'apparition de Al-Masih Al-Dajjal, la sortie de l'Antéchrist. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre Isa alayhi salam du ciel afin qu'il le combatte. Puis, il y a la sortie de Ya'juj wa Ma'juj. Donc ensuite, il y a la sortie de Ya'juj wa Ma'juj. قال الله إن يأجوج ومأجوج لمفسدون في الأرض. الله سبحانه وتعالى ذكر leurs actions. Il sème le désordre sur la terre. قال سبحانه فإذا جاء وعد ربي. قال بعض المفسرين خروج يأجوج ومأجوج. كما قال العلامة المفسر As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Donc la sortie de Ya'juj et de Ma'juj a été citée dans le Coran. Et Dhul-Qarnayn, qui était un roi pieux, un réformateur, est celui qui a enfermé ses peuples. Et celui qui a enfermé ses peuples, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité de cela dans Suratul Kahf. Ibn Uthaymin rahimallahu ta'ala nous dit, ce sont des hommes de la descendance de Adam alayhi salam. Et ils font partie, ou bien ils sont de la descendance de Nuh alayhi salam. En ce qui concerne leur description, ils ont l'apparence des gens de Mongolie. Ils ont des petits yeux, des nez aplatis ou des visages aplatis. Parmi les preuves de leur sortie proche de la fin du monde. قال الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون الحدب كل مرتفع من الأرض. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va, ou bien que l'espace, c'est-à-dire ceux dans quoi ils étaient enfermés, va s'ouvrir et ils vont pouvoir sortir et ils vont se répandre par la suite. Les savants ont dit que cela apparaîtra dans le temps où Isa alayhi salam sera descendu. Wa inda Muslim wa Abi Daoud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah rahimahumullah fi hadith tawil qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yuha على عيسى عليه السلام بعد أن قتل الدجال قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدانون لك بقتالهم أي لا تستطيع ذلك فحرض عبادي إلى الطور فيبعث الله سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل ويرسل عليهم نغفا أي دودا صغيرة في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة وفي رواية عند ابن ماجه رحمه الله تعالى لا يسمعون لهم حسا ثم يقال من رجل يشتري نفسه وينظر ما فعل ينزل منهم رجل قد وطأ نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا فينادي ألا أبشروا قد هلك عدوكم فيخرج الناس نرجع إلى الرواية الأولى فيهبط عيسى وأصحابه فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم حيث شاء الله. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un long hadith nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à Isa après qu'il ait tué l'antéchrist Ad-Dajjal, Allah va l'informer qu'il a fait sortir certains de ses serviteurs qui ne se soumettront pas à lui et qu'il n'arrivera pas à tuer, c'est-à-dire Ya'juj wa Ma'juj. Alors il lui ordonnera d'emmener ses serviteurs à Tour. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va permettre à Ya'juj et Ma'juj de se répandre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre, va envoyer Narafan, c'est-à-dire des vers comme des vers de terre, de petite taille, sur leur cou, et chaque personne qui sera touchée par cela décédera. Et ils mourront tous en même temps, comme une seule et même personne. Dans une autre version, on va dire, qui d'entre vous, on va s'adresser aux croyants, qui d'entre vous se lève pour aller voir ce qu'ils sont devenus? Alors il y a un homme qui va se lever, et il se sera préparé à mourir. Et lorsqu'il viendra, il les trouvera tous morts. Le peuple tout entier de Ya'juj et de Ma'juj, il les trouvera tous morts. Puis, Il annoncera la bonne nouvelle aux croyants. Réjouissez-vous, vos ennemis sont tous morts. Puis Allah subhanahu wa ta'ala enverra des oiseaux qui auront comme apparence d'avoir des longs coups, comme les chameaux. Et ils ramasseront l'ensemble de ces cadavres. Les savants ont expliqué cela en disant que Ya'juj et Ma'juj sont tellement nombreux que si l'ensemble des hommes se seraient réunis pour les enterrer, ils n'auraient pas réussi. Et cela même s'ils avaient mis toute leur vie pour faire cela. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mis fin à l'épreuve de Ya'juj et Ma'juj, le signe suivant parmi les signes de la fin du monde est Al-Khusufat al-Thalata. Il y aura trois engloutissements de terre. Al-Na'am. Al-Khusufat, c'est-à-dire qu'il y aura un éboulement de terre, ou plutôt littéralement un engloutissement de terre. Un engloutissement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait par exemple à Qarun. قال فخسفنا به وبدار الأرض من سورة القصص وعند مسلم عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لم تقوم حتى تروا عشر آيات فذكر منها ثلاثة خسفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela et nous dit que l'heure de la fin du monde ne sonnera pas tant qu'il n'y aura pas eu trois engloutissements. Un à l'est ou à l'orient, un en occident ou à l'ouest, et un dans la péninsule arabique, et un dans la péninsule arabique. Donc ça, c'est un des signes, un des grands signes de la fin des temps. Après cela, il y aura un autre signe. Il y aura un autre signe. Et en ce qui concerne les tartib, l'ordre des signes de la fin du monde, nombreuses sont les paroles, cela car il n'y a pas de texte qui nous est parvenu avec les signes de la fin du monde dans l'ordre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités, il a dit par exemple Tulu' al-Shams, alors que c'est un des derniers signes parmi les 10 grands signes. Donc les signes n'ont pas été cités dans l'ordre. C'est pour cela que les savants ont beaucoup divergé. Et ici j'essaie de vous les citer dans l'ordre le plus plausible, à peu près, wallahu a'lam. Donc après, le signe suivant des signes de la fin du monde est Ad-Dukhan. Ad-Dukhan, c'est-à-dire une grande fumée. Une grande fumée. Fi akhir al-zaman. Qala Allah fartaqib yawma ta'ti as-samaa' bi-dukhan mubin. Ay wadih. Yakhsha an-nas. Ay ya'ummuhum. Donc Allah dans le Coran nous informe d'une fumée qui va venir et qui va englober tout le monde. Et les savants ont divergé sur cette fumée. Est-ce que c'est la fumée qui a touché Quraysh? Est-ce que c'est la fumée qui a touché Kuffar Quraysh lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua contre eux ou pas? Donc certains savants disaient qu'il y a le Dukhan qui est voulu ici, c'est ce qui a touché Kuffar Quraysh. Et c'est ce qui a été attribué à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. D'autres parmi les savants, wa minhum turjuman al-Qur'an Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, قال وبعض تابعين رجحوا أن الدخان المرادة أو المقصود في الآية الدخان في آخر الزمان. Fi akhir zaman. Donc Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les pieux prédécesseurs voyaient que cette fumée était la fumée qui arrivera proche de la fin des temps. ثم بعد ذلك إخوة الإيمان طلوع الشمس من مغربها. Après cela, un des plus grands signes, un des signes qui fera en sorte que l'ensemble des gens et même les non-musulmans vont croire. Pourquoi ? Ce signe est tellement immense qu'il ne laissera aucun doute dans le cœur, et cela même dans le cœur de ceux qui ont le cœur mort. طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Vous savez tous et vous voyez tous que chaque jour, le soleil se lève. Il se lève où ? Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et ce signe de la fin du monde est que le soleil va se lever à l'ouest. Il va se lever de son couchant. Il se lève d'un côté et se couche de l'autre côté. Et cela car Allah subhanahu wa ta'ala lui permet ça chaque jour. Mais ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui permettre de repartir vers le levant. Il va donc se relever du couchant. Donc l'ensemble des créatures, après avoir vu toute leur vie, le soleil se lever d'un côté, ils le verront se lever de l'autre. À ce moment-là, la porte du repentir se referme. وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قال الله يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله سبحانه وتعالى dans ce verset nous parle de certains signes. Il nous dit que ce jour où ces signes-là sortiront, l'âme ou bien celui qui n'avait pas cru auparavant, ça ne lui servira plus à rien de croire. Pourquoi cela ? Parce qu'Allah Azza wa Jal n'acceptera plus à ce moment-là le repentir. Beaucoup de savants, beaucoup d'exégètes du Coran ont dit que les signes voulus dans ce verset, le signe voulu dans ce verset était que le soleil se lève du couchant. Et l'imam al-Barawi, rahimahullah ta'ala, qui est un des plus grands exégètes du Coran, nous dit « وَهَذَا قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْمُفَسِّرِينَ. L'imam al-Barawi, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَعَلِي أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ. Et c'est l'avis de la plupart des savants de l'explication du Coran. إِذَنْ عِنْدَ ذَلِكَ بَابُ التَّوْبَةِ تُغْلَقُ. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حِينَئِذٍ إيمان الكافر وسيؤمنون جميعا ولا يقبل توبة الفاسق. تنبهوا لهذا. الله سبحانه وتعالى حينئذ لا يقبل توبة الكافر، لا يقبل إيمانه، وحتى توبة الفاسق لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. Donc à ce moment-là, Allah Azza wa Jal ne va plus accepter le repentir du mécréant. Mais il n'acceptera pas non plus le repentir du pervers. Allah n'acceptera plus le repentir. Et à ce moment-là, comme Amada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah azza wa jalla a ouvert la porte du repentir. A ouvert la porte du repentir. Et elle ne se refermera pas si ce n'est lorsque le soleil se lèvera du couchant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'imam al-Bukhari et l'imam muslim ont rapporté, لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Et dans cela il y a un grand rappel. Et dans cela, il y a un grand rappel qui nous appelle à nous repentir chaque jour, à chaque minute. Car nous ne savons pas à quand l'heure. Car nous ne savons pas à quand l'heure. Donc chaque musulman doit faire ses comptes régulièrement. Et regarder, est-ce qu'il y a des manquements ? Est-ce qu'il a des manquements vers Allah Azza wa Jal ? Est-ce qu'il a des manquements vers ses parents ? Est-ce qu'il a des manquements envers sa famille ? Est-ce qu'il a des manquements envers ses proches ? Est-ce qu'il a des manquements envers ses frères ? Et ainsi de suite. حتى يستغفر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يدركه هذا اليوم إلا وهو قد تاب من ذنوبه. ثم بعد ذلك خروج دابة. Le signe suivant, c'est l'apparition d'une bête. L'apparition d'une bête. Et ce qui est voulu par cette bête ici, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité. C'est un des signes de la fin du monde. قال الله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض من أي من الأرض فتخرج من الأرض من الأرض تكلمهم أي تكلم الناس بلغة يفهمونها تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Dans sourate An-Naml, le verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la sortie de cette bête et nous dit avec cela deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elle va sortir de la terre. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle va s'adresser aux gens. Elle va parler aux gens. Les savants ont dit, les gens comprendront ces paroles, donc dans une langue qu'ils comprendront. En ce qui concerne les caractéristiques de cette bête, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, ou bien le Na'am, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les savants, nous disent qu'on ne connaît pas les caractéristiques de cette bête. Et d'autres parmi les savants ont dit que tous les hadiths décrivant cette bête sont faibles. Toutes les caractéristiques décrivant cette bête sont faibles. Et elle va sortir à un moment où les gens seront loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir dit « وَذَلِكَ عِنْدَ فَسَدِ النَّاسِ وَتَرْكِمْ أَوَامِرَ اللَّهِ » Donc cette bête va venir comme pour conseiller les gens. Comme pour conseiller les gens. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit ليس في النصوص الصحيحة ما يدل على مكان خروجها ولا صفاتها ولا صفاتها. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit il n'y a aucun texte qui nous montre d'où elle sortira ni même ses caractéristiques. Donc on croit en ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a cité dans ce verset. Et on ne connaît pas non plus l'espèce de cette bête. On ne connaît pas non plus l'espèce de cette bête. Et les savants, c'était beaucoup de paroles. Si ce n'est qu'il n'y a pas de hadith authentique sur cela. L'imam al-Qurtubi, par exemple, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَأَصَحُ الْأَقْوَالَ أَنَّا فَصِيلَةُ نَاقَةِ صَالِحٍ » C'est le petit de la chamelle du prophète Salih alayhi salam. Mais les savants ont dit qu'il n'y a pas de preuve affirmant cela. D'autres ont dit que c'est déjà ça. Et d'autres ont dit. Ala kulli hal, al-aslam, le plus sage dans les masail ghaibiyya, c'est de s'arrêter à ce qui nous est venu dans le Coran ou la sunna maqboula min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un des signes qui attriste le plus le musulman. Un des signes qui attriste le plus le croyant, celui qui a eu le goût de la lecture du Coran, celui dont la poitrine s'apaisait à la récitation du Coran, celui qui faisait partie de Ahlul Coran, Ahlullah wa khasatuh, Raf'ul Coran wa ndirasul Islam, subhanallah. Raf'ul Coran al-Karim. Ce signe est qu'on va retirer le Coran de la terre. Retirer le Coran des masahif. Et l'islam va commencer à disparaître. La disparition de l'islam. Wa hadha lima thabata min hadith Hudayfa ibn al-Yaman 'inda ibn Majah. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى يدرى حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منهم آية سبحان الله وتبقى
طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. والحديث صححه العلامة الألباني. À quel moment se produira cela? Lorsque les gens vont s'éloigner du Coran, lorsque les gens vont s'éloigner de la croyance, lorsque les gens vont s'éloigner de l'étude de leur religion. فمن أكبر فوائد مجالس انعقاد مجالس الذكر حفظ القرآن حفظ الإسلام. Donc parmi les plus grands bienfaits de s'asseoir pour étudier la religion d'Allah, enseigner la religion d'Allah, apprendre la religion d'Allah, le fait de préserver l'islam et de garder avec nous le Coran. Et lorsqu'on dit que le Coran sera enlevé de la terre, c'est-à-dire qu'il sera même enlevé du mushaf, le Coran que tu vois, les gens vont se lever un jour, ils vont l'ouvrir et il n'y aura plus de versets, subhanallah. Il n'y aura plus de Coran. Il n'y aura plus de Coran. Et cela, car ils se sont détournés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui méritait toute la considération. Toute la considération lorsqu'ils se sont détournés de cela, Allah subhanahu wa ta'ala fera, yani a fait lever ce signe. Le signe est souvent, et cela nous appelle à quoi? Cela nous encourage à hifz al-Qur'an, à mémoriser le Qur'an, tadabbur al-Qur'an, à méditer le Qur'an. فهم القرآن comprendre le Coran العمل بهذا القرآن mettre en pratique le Coran mettre en pratique le Coran. Combien parmi les gens, subhanallah, parmi des frères qu'on voit au masjid depuis des années, wallahi سؤال ما أدري ما أقول, des années je te croise mon frère, des années, puis un jour tu viens me poser quoi comme question? Est-ce que lorsque je lis le Coran en français, sache qu'il n'y a pas de Coran en français, ya akhal islam, le Coran nazala bi lisanin arabi mubin. Lorsque je lis la traduction du Coran en français, est-ce que j'entre dans le hadith de celui qui aura 10 récompenses pour chaque lettre? Est-ce que celui qui lit la traduction en français a telle chose et telle chose et telle chose? Ya subhanallah. Ya subhanallah, ta'allam al-lughat al-arabiyya. لغة نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. تعلم لغة الصحابة. Apprenez la langue arabe. Apprenez à lire l'arabe. C'est très facile. C'est très facile. Pour celui à qui Allah Azza wa Jal bien sûr aura facilité. Tu peux apprendre l'arabe en un laps de temps très court. Puis, te yani prendre un grand plaisir à lire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour ceux qui lisent l'arabe, ihfadhu al-Qur'an, mémorisez le Qur'an, apprenez autant que possible le Qur'an. Combien d'heures et de jours on perd à rien faire? Donc ça c'est dans le meilleur des cas, pour pas dire à prendre des péchés en désobéissant Allah azza wa jal et en mangeant la chair des musulmans. Occupez votre langue par ce Coran, mémorisez le Coran afin de ne pas subir ce grand malheur qui est le fait de ne plus trouver le Coran un jour. Le signe suivant, et c'est le dernier signe par lequel on conclura les signes de la fin du monde, les 10 grands signes de la fin du monde, An-nar allati tahshuru an-nas. Donc le dernier signe, c'est un feu qui va apparaître. Un feu qui va apparaître et va faire se déplacer les gens pour qu'ils soient tous réunis sur une seule et même terre. Un feu qui va apparaître, qui aura pour sagesse de faire se déplacer les gens et de réunir l'ensemble des gens sur une seule et même place. Al-Hudayfa ابن أسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك في سنة الترتيب. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer que c'est le dernier signe? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم dit ici et la dernière chose, c'est-à-dire des signes de la fin du monde, des grands 10 derniers signes. نار تخرج من اليمن تطرد الناس في أرض محشرهم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le dernier signe, et un feu qui va sortir du Yémen, min qa'ri Yémen, qui va pousser les gens et réunir les gens sur la terre du rassemblement. Sur la terre du rassemblement. قال أهل العلم هناك فائدة الحشر حشران الحشر حشران حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. Sachez que le rassemblement est de deux sortes. Je viens de citer que ce feu-là a pour but de rassembler les gens sur une seule et même terre. Pourquoi cela va venir? Il y a deux sortes de rassemblement. Un dans ce bas monde et un dans l'au-delà. Dans ce bas monde, il y en a deux. Et dans l'au-delà, il y en a également deux. Dans ce bas monde, il y a eu Al-Hashr qui est cité dans Sourate Al-Hashr. La Sourate l'Exode. Mais ce n'est pas ce qui est voulu par Al-Hashr en tant que signe de la fin du monde. Mais c'est plutôt ici Al-Hashr. Le rassemblement suite au feu qui va pousser les gens sur la terre du rassemblement. Et dans l'au-delà, il y a deux hashr. Le premier, hashrul amwat ba'd al-ba'th. Le premier, c'est le rassemblement des gens après la résurrection. Et le deuxième, et là, premièrement, la preuve de cela, وَنَحْشُرُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا أَوْ حَشَرْنَاهُمْ نَعَمْ نَعَمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَيْ لَمْ نَتْرُكْ. Donc Allah dans le Coran nous dit, nous les rassemblerons et on ne laissera personne. Ça c'est dans l'au-delà après la résurrection, après Al-Qiyam, après Al-Ba'th. Et le deuxième hashr, c'est hashr al-nas fil jannah. C'est le rassemblement des gens au paradis. C'est le rassemblement des gens au paradis. Et le feu également est de deux sortes. Le premier, نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْحِجَاز تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلْ مِنْ أَرْضِ بُسْطَى أَيْ فِي الشَّامِ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمُ مِنْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ. Les tout comme le hashr sont de deux sortes. Les feux sont de deux sortes. Le premier feu, c'est un feu qui sort du Hijaz, qui va illuminer, qui va éclairer le cou des chameaux. Et ce feu-là va sortir vers la Syrie, ou est sorti vers la Syrie. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ce grand savant, cet historien, nous dit وَقَدْ وَقَعَتْ كَمَا نَعَمْ وَقَدْ وَقَعَتْ. Il nous dit que ce feu a eu lieu. Ce feu a déjà eu lieu. Ensuite, il y a un deuxième feu. C'est le feu du signe de la fin du monde. C'est le dernier signe de la fin du monde. Comme dans le hadith de l'imam Muslim. Il sortira du Yémen. Ce feu-là sera au Yémen. Et il emmènera les gens vers Sham, vers la région qui se trouve actuellement vers la Syrie. Pour finir le hadith des 10 signes. لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاثة خسوف خسف بالمشرق خسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب ونارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهذا حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عند الترمذي. Et l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est authentique.
Après, c'est dix signes, chers frères. Donc, on a conclu avec les signes de la fin du monde. Nous allons passer maintenant à marahil al-akhir wa ahwaluha. Nous allons passer maintenant à un autre sujet qui n'est en réalité que la continuité de cela. Lorsque les gens seront réunis sur cette terre, Fisham, suite au feu qui est sorti de Adam, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'on souffle dans la trompe. Va ordonner qu'on souffle dans la trompe. Donc la première chose, al-nafkhu fis-sur. La première chose à savoir, la première chose à laquelle nous devons avoir foi et qu'on doit croire, لأن هذه الأمور أيها الإخوة من الإيمان أو تدخل في الإيمان باليوم الآخر وقد علمتم من خلال دروسنا في حديث جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فكلما نذكره الآن أو كل ما نذكر الآن يدخل في الإيمان باليوم الآخر فيجب عليك أن تصدق بكل ذلك. Donc sachez, chers frères, que tout ce que nous citons là, ça rentre dans un des plus grands piliers de la foi, qui est la foi au jour dernier, qui est la foi au jour dernier. Donc on doit y croire et ça fait partie de la foi. Donc on va souffler dans la trompe. La trompe, c'est connu. Une trompe, c'est ce dans quoi et allez, on souffle. Et ce qui est voulu ici, ce qui est voulu ici, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran. Par exemple, dans Sourate Az-Zumar, wa nufikha fis-sur. Dans Sourate An-Naml ou bien An-Nahl, na'am, wa nufikha fis-sur. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذا هو السور وهذه النفخة. Celui qui va souffler dans la trompe s'appelle Israfil. C'est un des anges les plus connus, Israfil. Et j'ai trouvé que certains savants disaient wa ahadu hamalat al-arsh. وَأَحَدُ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et j'ai trouvé que certains savants disaient que c'était un des anges qui portait le trône. C'était un des anges qui portait le trône. إِذَنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَأْمُرُ إِسْرَافِيلَ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ عند مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أي فعل هكذا. طيب كم نقدر تندر l'oreille et ensuite il se remet en position normale. ثم لا يبقى أحد إلا صعق صعق ثم ينزل الله ينزل الله وينزل الله مطرا كأنه طل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النبي صلى الله عليه وسلم نجي. On va ensuite souffler dans la trompe. Il n'y a pas une personne qui l'entendra sans qu'il ne tende, l'oreille. Ensuite, il se remettra en position normale. Yani comme lorsque tu entends un son. Lorsque tu entends un son et que tu veux vérifier quel est ce son. Vois-tu l'action que tu fais, ben c'est ce qui est voulu ici dans le hadith. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et il n'y a pas une personne qui entendra cela sans qu'elle ne tombe
morte, sans qu'elle ne tombe par la suite, morte. Ensuite Allah Azza wa Jal fera descendre une pluie qui sera semblable à la rosée. Et de cela, les corps vont repousser. De cela, les corps vont repousser. Ensuite, on va ressouffler une deuxième fois dans la trompe. Et à ce moment-là, ils vont sortir de leur tombe. Ils vont sortir de leur tombe et seront en train de regarder. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Donc c'est Israfil, l'ange, qui est chargé de souffler dans la trompe. Israfil, à ce moment-là même où nous parlons, tient cela dans sa main et a porté cela à sa bouche. Il attend juste l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour souffler dans la trompe. Comme cela est testé dans le hadith authentique. Et une question qui est souvent posée, combien de fois on souffle dans la trompe? Est-ce que c'est deux fois ou est-ce que c'est trois fois? Est-ce que c'est deux fois ou est-ce que c'est trois fois? اختلف أهل العلم في هذه المسألة وأرجح الأقوال والله أعلم أنها ثلاثة نفخة الفزع نفخة الموت أو السعق ونفعة البعث. Donc le plus plausible est de dire qu'il y en a trois. Premièrement, on souffle dans la trompe et c'est ce qui va effrayer, terroriser tout le monde. Deuxièmement, on souffle dans la trompe et c'est ce qui va faire mourir tout le monde. Troisièmement, on souffle dans la trompe et c'est ce qui va ressusciter tout le monde. C'est ce qui va ressusciter tout le monde. C'est ce qui va faire sortir des tombes leurs habitants. Certains parmi les gens de science ont dit deux. Et on dit que les deux premiers ne font en réalité que un. C'est-à-dire que lorsque l'on va souffler dans la trompe, les gens vont être apeurés et suite à cela, ils vont tomber morts. Et deuxièmement, lorsqu'on soufflera dans la trompe, ils vont sortir de leur tombe vers Maza, la place du jugement. Et la vie le plus plausible, c'est de dire qu'il y en a trois. Comme Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, wal Qur'an akhbara bi thalathi nafakhat. Le Qur'an nous informe de trois souffles dans la trompe. Premièrement, al faza' fi qawli ta'ala wa yawma yunfakhu fi s-sur. Fafazi'a man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha'a Allah. Fi surat an-Naml, le verset 87. Ensuite, naf'atu s-sa'q. والقيام ذكرهما الله سبحانه وتعالى يعني نفعة الساق ونفعة البعث ونفخة البعث ذكرهما الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر في قوله ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب ومنه قول السفاريني واعلم أن النفخ في السور ثلاثة نفخات. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous a informé de trois souffles dans la trompe. Premièrement, le souffle qui va apeurer les gens. Dans Surat An-Naml, le verset 87. On nous informe ici que lorsqu'on va souffler dans la trompe, les gens seront terrorisés. Ça va faire peur aux gens. Ensuite, dans Surat Az-Zumar, on nous informe des deux souffles suivants. Le souffle qui va faire mourir les gens et le souffle qui va ressusciter les gens. Et l'imam Safarini a cité cela en disant « Sache qu'on soufflera trois fois dans la trompe. » « Illa man sha Allah » »« On a qu'à mas'ala » »« Sauf celui qu'Allah aura voulu. » »« Sauf celui qu'Allah aura voulu. » Qui sont les gens qui font cette exception? Qui sont les gens qui ne seront pas touchés par ce qui a été cité dans le verset? Les savants ont divergé en citant beaucoup de paroles. Et une des paroles les plus fortes est de dire que ce sont Eshuhada, ce sont ceux qui sont morts martyrs.
Ce sont ceux qui sont morts martyrs. Et c'était la vie d'Ibn Abbas, rahimahullah ta'ala, qui était appuyé, qui est appuyé par le verset où Allah Azza wa Jal nous dit ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند الله يرزقون. Et ne pense pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts, mais ils sont bel et bien vivants auprès d'Allah. On leur donne leur subsistance. On leur donne leur subsistance. D'autres parmi les savants ont dit, c'est tous ceux qui se trouvent au paradis. C'est ça qui reste là. C'est tout ce qui se trouve au paradis. D'autres ont dit les anges. D'autres ont dit ceux qui portent le trône. Il y a beaucoup de paroles. Wallahu a'lam. Mas'ala. Combien de temps est-ce qu'il y aura entre eux le moment où on va souffler dans la trompe la deuxième fois, donc lorsque les gens vont mourir, et le moment où on va ressouffler dans la trompe une troisième fois, donc pour la troisième fois, et les gens seront ressuscités et sortis de leur tombe. Voyez, kamil mudda baina nafratay. Al jawab fi hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu 'inda al-Imam Muslim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma baina ay alladhi ma baina an-nafratay 40. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le temps qu'il y aura entre les deux souffles dans la trompe est 40. Lorsque Abu Huraira a apporté ce hadith, qalu ya Abu Huraira 40 yawman qala abayt, qalu 40 shahran shahran qala abayt, qalu 40 aaman qala abayt. Ensuite, les gens ont dit à Abu Huraira, oh Abu Huraira, est-ce que c'est 40 jours? Il a dit, j'ai refusé. Est-ce que c'est 40 mois? Il a répondu, j'ai refusé. Est-ce que c'est 40 ans? Il a répondu, j'ai refusé. Le grand savant Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, wa kathara Allah min amthalih, nous dit que les savants ont divergé sur le sens de abayt. J'ai refusé. Pourquoi? Lorsqu'Abu Huraira refusait de répondre. Que signifie cela? Il nous cite trois paroles. Il dit premièrement, abayt ayna sit. Abayt, c'est-à-dire j'ai oublié. J'ai oublié. La deuxième parole, abayt ay abayt an as'ala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an dhalik. Le deuxième avis, c'est-à-dire j'ai pas osé ou j'ai refusé de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Et le troisième avis, abayt ay imtana'tu an adhkura lak an adhkura dhalika lakum. C'est-à-dire je refuse de vous informer de cela. Et allez pour une sagesse, pour une sagesse. Quoi qu'il en soit, on sait que c'est 40. On sait que c'est 40 à travers ce hadith. Donc, après cela, que se passera-t-il? Al-Ba'th. C'est la deuxième étape de la résurrection. Al-Ba'th. L'oratan wa l'irzal wa l'nashr. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les corps. Shar'an ihya'ul mawta وإخراجهم من قبورهم ليوم القيامة وللحساب والقضاء بينهم. البعث c'est quoi? La résurrection, c'est le fait de faire revivre les morts et de les ramener, de faire revivre les morts le jour de la résurrection. C'est le fait de faire revivre les morts le jour de la résurrection. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, il y a beaucoup de mots dans le Coran qui sont des synonymes en réalité de Al-Ba'th. Comme Al-Nushur, comme Al-Ma'ad, comme Na'am Al-Ma'ad. Comme cela a été cité en Surat Al-Mulk, Surat Al-Naml et d'autres sourates. Et d'autres sourates. وَعْلَمْ أَنَّ الْبَعْثِ مِنْ أَكْبَرِ الْمَسَائِلِ أَلَّتِي أَنْكَرَتْهَا الْمُشْرِكُونَ مَعَا Tawhid al-Uluhiyya. Ici, une information importante. Sache que la résurrection des corps et des âmes le jour de la résurrection est une des plus grandes questions que les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rejeté et renié, avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte. Ils ont mécru en cela, ils ont renié cela. Ils disaient, qu'est-ce qui pourra redonner vie à ces os, à ces ossements? Qu'est-ce qui pourra redonner vie à ces corps alors qu'ils sont devenus poussière, alors que ça n'est que de la terre, et ainsi de suite. Et de cela, tu vois que l'étude de la aqidah et de l'apprentissage d'Allah, des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, afin de voir de sa perfection, dans sa puissance, sa sagesse, c'est une des sciences les plus importantes. Celui qui sait qu'Allah est ala kulli shay'in qadir, celui qui sait qu'il est alimul khabir, celui qui sait qu'il est ahkamul hakimi, aura aucune difficulté à croire en cela. Allah est parfaitement capable. Allah a la force, la science et la sagesse. Et il fait ce qu'il veut. Et celui qui a créé les gens à partir de rien, à plus forte raison, il peut les créer à partir de quelque chose. Subhanallah. Lorsqu'ils vont sortir de leur tombe, ils se précipiteront vers la terre du jugement. Ils verront des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils seront terrorisés. Ils seront apeurés. Au point où les nouveau-nés auront les cheveux qui deviendront blancs. Toute femelle qui porte quelque chose en elle mettra bas, que ce soit les animaux, que ce soit les femmes. La terre sera changée. Les étoiles que vous voyez tomberont comme des boules de feu. La mer sera portée à ébullition tel un feu. Les cieux seront pliés et les gens verront tout ça. Donc, subhanallah, ils seront terrorisés. Ils seront apeurés. إذن الناس يخرجون من قبورهم يسرعون يلبون النداء وهم خائفون ينظرون حولهم والجبال دكت والأنهار جفت والبحار اشتغلت والأرض غير الأرض وكذا السماوات قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Allah nous informe dans sourate Ibrahim que les gens verront la terre, mais elle ne sera pas celle qu'ils connaissent, celle qu'ils ont connue. Donc Allah Azza wa Jal va changer tout cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui veut voir ce jour comme s'il le voyait devant lui, qu'il lise ses sourates. إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت. حديث عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى dit qu'il est authentique. Le soleil sera rapproché au-dessus des têtes et les gens vont suer. Il y aura ensuite l'étape suivante, la troisième étape, Al-Hashr. La troisième étape des étapes du jugement dernier, Al-Hashr, le rassemblement. Donc on a soufflé dans la trompe, on a ressuscité les corps, on a redonné vie au corps, et maintenant on rassemble l'ensemble des gens sur une seule et même terre, sur une seule et même place, Ardul Mahshar. Al-Hashr, le ratan al-jam'a. وَشَرْعًا جَمْعُ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِحِسَابِهِمْ وَالْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ وَالْبَعْثُ وَالْحَشْرُ حَقٌ ثَابِتٌ مِنْ كِتَابٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَبِإِجْمَعِ. Le fait de croire en cela est une obligation, car ça nous a été affirmé dans le Coran, la Sunna, ainsi, et il y a également le consensus des savants sur cela. Les mécréants ont dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man yuhyi al-'idham wa hiya ramim. Qu'est-ce qui pourra redonner vie aux ossements alors qu'ils sont devenus poussière? Ils ont dit également Mada. طيب la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّ. Les associateurs ont renié le fait qu'ils seront ressuscités et rassemblés à la place du jugement dernier. Allah azza wa jalla dans le Coran, قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. Allah azza wa jalla dit, non mais si, dit par ton Seigneur, vous serez ressuscité, puis vous serez informé de ce que vous avez fait. Dans ce verset, il y a l'affirmation de la résurrection, du rassemblement et du jugement. C'est dans Surat Al-Taghabun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Dans Surat Al-Waqi'a, verset 29. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'ensemble des premiers et derniers sont réunis sur une place dans un moment déterminé. قال الله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Il nous dit également, nous les réunirons et nous ne délaisserons personne. On va réunir l'ensemble des gens et on ne délaissera personne. Donc sache que ce jour-là, c'est ton rendez-vous. Et le rendez-vous de l'ensemble des créatures. Tout le monde sera convoqué et personne ne sera en retard. Tout le monde sera convoqué par le Seigneur des mondes, Al-Aziz Al-Jabbar. Le dominateur suprême, Al-Kabir Al-Muta'ar. Al-Malik Al-Haq. On sera tous convoqués par Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne pourra manquer à cette convocation. Ni même arrivant en retard ne serait-ce qu'une minute. Puis, les gens seront tous rassemblés où? Sur une terre. Comment est cette terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يُحْشَرُ النَّاسِ عَلَى أَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ الْبَيْضَى عَثْرَى أَيْ تَمِيلِ إِلَى الْحَمْرَى كَقُرْصَةٍ نَقِي لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ. Muttafaqun alayhi min hadith Sahl ibn Sa'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens seront réunis sur une terre blanche qui penche vers le rouge, une terre ronde où il n'y aura aucune trace, c'est-à-dire de construction ou d'habitation et autres, comme on dit les savants. Quelle est la description des gens lorsqu'ils seront réunis et ressuscités? Ou à ce moment-là, Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يُحْشَرُ النَّاسِ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا. Et dans un autre hadith, بُهْمَا أَيْ بِلَا شَيْء لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا جَمْعُ أَبْهَمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens seront ressuscités nus, c'est-à-dire sans vêtements, pieds nus, c'est-à-dire pieds nus, sans chaussures, nus, c'est-à-dire sans vêtements, non circoncis, c'est-à-dire que le prépuce qu'on coupe lors de la circoncision reviendra. Donc Allah Azza wa Jal va te redonner ton corps comme il était, car il a dit kama bada'na maza awwala marra nu'idu wa'dan 'alayna. Car Allah Azza wa Jal a promis dans le Coran de ressusciter les gens tout comme il avait commencé cela, c'est-à-dire ils sont sortis de la terre, ils reviendront à la terre et ils avaient également ce bout de chair, on va leur, ce bout de peau ou de chair, Allah alam comment dire, et ils l'auront également. Aïcha radiallahu anha, Ummuna Al-Afifa Al-Barra Al-Siddiqa Binti Siddiq
قالت قولا عظيما. قالت يا رسول الله اسمع كلام المرأة العفيفة ذات الحياء ذات حياء. يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من أن ينظر أحد آخر. أي كلهم يعني مشغولون بالحال بشدة الحال وبذنوبه والخوف مما ينتظره وينتظرونه. عائشة رضي الله عنها دين بارون qui ne peut que provenir d'une femme chaste, d'une femme pudique, d'une femme qui a reçu l'éducation qu'il y a dans le Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle a entendu qu'on sera ressuscité pieds nus, nus et incirconcis et non circoncis, elle a dit à Rasulallah, les hommes avec les femmes, et chacun pourra regarder l'autre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oh Aïcha, la situation sera tellement difficile que personne ne pensera à regarder un autre. Subhanallah. Ensuite, le soleil sera rabaissé au-dessus des têtes. Biqadri mil, à la distance d'un mil. El mil, si c'est la distance, ça équivaut à environ 1,6 km. 1,650 km. Mais subhanallah, certaines personnes qui ont rapporté le hadith ont dit Allahu a'lam, si c'est le mille la nourriture, ou bien si c'est le mille, mada, la distance. On va dire que c'est la plus longue. Ça veut dire qu'au maximum c'est 1,6 km. Subhanallah. Là, lorsqu'il y a la canicule, les gens meurent. Les gens meurent. Mais ce jour-ci, ils vont subir et ils n'auront pas d'autre choix si ce n'est que de supporter. Et les gens vont alors suer. Ils vont suer. Puis, cette sueur montera proportionnellement à la situation que l'homme avait dans ce bas-monde. S'il était pieux, il sera préservé ou bien il ne montera pas haut. Si c'était un pervers, et ainsi de suite, ben ça montera en fonction du nombre de ses péchés. Mais par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura une ombre. Il y aura une ombre. Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit il y a sept qui seront sous l'ombre d'Allah, c'est-à-dire sous l'ombre du trône d'Allah. Sept, c'est-à-dire ça ne veut pas dire sept personnes, ça veut dire sept catégories de personnes. C'est-à-dire sept catégories de personnes. Tu as entendu mon frère, la situation des gens, elle est terrible, elle est difficile, et le soleil est au-dessus des têtes. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe qu'il y aura une ombre qui sera attribuée ou qui sera au-dessus ou bien qui couvrira plutôt cette catégorie de personnes. Ici, une question que je veux te poser. Est-ce que tu penses rentrer dans ces catégories ou pas? Premièrement, est-ce que tu sais qui sont ces gens-là? Après, pose-toi une autre question. Est-ce que je rentre dans cette catégorie ou pas? Le but, lorsqu'on étudie, c'est de se corriger, c'est d'apprendre pour appliquer. Ça n'est pas pour passer notre temps. Ça n'est pas pour, comme ils le disent, tuer le temps. Mais ça doit avoir un impact sur nous. Donc pose-toi cette question. Pose-toi cette question, est-ce que je serai sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal ce jour-ci, ou est-ce que je serai dans, yani sous ce soleil? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite ces catégories de personnes en disant, El-imam wa el-adi. L'imam qui était juste,
Ce qu'on entend par l'imam ici, ce n'est pas l'imam qui préside la prière, c'est le gouverneur, le roi, celui qui dirige le pays, qui était juste. Pourquoi cela? Car celui qui est à la tête du pays peut faire pratiquement ce qu'il veut. Mais lui, il ressentait le regard d'Allah Azza wa Jalla et savait qu'Allah le surveillait, alors il s'est montré juste. Deuxièmement, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune homme ou une jeune femme, un jeune garçon ou une jeune fille. Donc ça n'est pas propre aux hommes, aux gens de sexe masculin, mais ça englobe même les femmes. Alors que les femmes soient attentives à cela. Le jeune qui a grandi, nasha'a. Nasha'a. Donc il est jeune et il grandit comme cela. Dans quoi? Dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. فأبشر ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب المستقيمين على طاعة الله وأسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياكم على هذا. Et c'est Allah qu'on demande de nous raffermir sur cela. Celui qui est jeune et qui a enfermé son nafs dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qui s'interdit volontairement alors que personne ne le retient, alors qu'il n'a pas de chaîne de désobéir Allah Azza wa Jal, volontairement il se dit: oh mon âme, ne désobéis pas à Allah Azza wa Jal. Volontairement, il se dit, il faut que j'obéisse à Allah Azza wa Jal, c'est mon Seigneur et mon Créateur. Volontairement, il se dit, Allah m'a tout donné, je ne peux pas lui désobéir. Volontairement, il se rappelle qu'il va mourir et sera ressuscité. Subhanallah. Ce jeune qui s'est interdit ces choses-là, ce jeune qui entendait dans ce bas monde, anta mutakhallif, tu es un arriéré. Cette femme qui entendait, c'est quoi ce voile? Tu es jeune et tu es belle. Pourquoi est-ce que tu te couvres? C'est quoi ce vêtement d'afghan? C'est quoi ce voile? On est dans un pays de liberté. Et ce genre de paroles, ben ce jour-ci, bonne nouvelle à vous, chère sœur. Cette jeune fille qui a grandi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, qui a refusé de retirer son voile, malgré qu'elle était persécutée par ceux dont le cœur était noirci par leur péché, ou dont la vie avait quitté ce cœur, ben bonne nouvelle ce jour-ci. Ce jour-là, elle sera sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, cher frère, qui as choisi la droiture, alors que tu as le choix de sortir dans le haram, à l'heure de la prière, on te trouve au mesquit. Dans les ténèbres de la nuit, tu te lèves pour prier, alors que les gens sortent dans les endroits où il y a de l'alcool et où les gens dansent. Et toi, tu dis non, je ne vais pas dans ces endroits-là. Inni akhafullah. Bonne nouvelle à toi. Bonne nouvelle à toi, tu seras sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui as entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, uhfou liha, laissez pousser vos bas. Toi qui as entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande barbe ronde et tu as décidé de laisser pousser ta barbe pour ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir, bonne nouvelle à toi. Bonne nouvelle à toi, alors que certaines personnes te persécutent et d'autres refusent de te donner un emploi parce que tu refuses de te raser la barbe, et toi tu restes accroché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu dis, moi mon exemple c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je n'enlèverai pas un poil pour avoir un euro en plus, mais je garde cela et je reste ferme sur cela afin d'avoir cette ombre le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-là. Bonne nouvelle à toi, cher frère. Et c'est à Allah que je demande de te raffermir sur le bon chemin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Et un homme dont le cœur était rattaché à la mosquée. La ilaha illallah. La ilaha illallah, celui qui aime le masjid, celui qui aime fréquenter la mosquée, celui qui, lorsqu'il sort de la mosquée, sa seule pensée est: quand est-ce que je vais revenir à la mosquée pour adorer Allah, pour lire le Coran, pour faire la prière en commun, pour rencontrer mes chers frères bien-aimés. Celui-ci sera sous l'ombre d'Allah, sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Il fait la prière et reste à la mosquée. Et lorsqu'il sort de la mosquée, sa seule occupation, c'est de regarder l'heure de la prochaine prière. Sa seule préoccupation, à quand la prochaine prière? Et wallahi alladhi la ilaha ghayr. Il y a des gens, depuis qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis et nous a honorés par la fréquentation des mosquées, chaque jour, à n'importe quelle heure, tu viens à la mosquée et tu les trouves dans la mosquée. Fala ilaha illallah. La ilaha illallah. Il y a des gens, tu les trouves toujours à la mosquée. Tu viens le matin, tu les trouves, ils t'ont devancé. Tu viens au soir, tu les trouves, ils t'ont devancé. Au Asr, au Maghrib, au Isha. Et au Isha, tu trouves que ce sont les derniers à sortir du masjid. Et d'autres, lorsqu'ils font le taslim, ils se lèvent et sortent même avant l'imam. Ça, c'est lorsqu'ils viennent à la mosquée. Alors que la sunna est que tu dois attendre que l'imam se retourne. L'imam, lorsqu'il finit le taslim, wa shaykh shaykh, il dit Astaghfirullah, 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 Maman ta salam, Maman ta salam, Tabarakta, Ya Abdel Jalal wal Ikram. Ensuite, il se retourne vers les gens. Et ce laps de temps permettait aux femmes de sortir sans qu'elles ne soient vues des hommes. Puis à ce moment-là, tu as le droit de sortir. Certaines personnes se lèvent avant même cela et sortent avant même cela. Ya Akhal Islam. Tranquille, sois, tu as fini ta prière, tu viens de finir la meilleure adoration. Fais tes adkar. Dis ensuite 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar et complète cela par La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, amada la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ça fera ça. Et chaque parole que tu prononces, médite. Et demande si tu ne connais pas le sens, quel est le sens de Subhanallah, de Alhamdulillah, de Allahu Akbar, de La ilaha illallah, et ainsi de suite. Ensuite, tu vas et tu fais ce que tu as à faire. Puis tu reviens à la prochaine prière, et ainsi de suite. Voici celui dont le cœur est attaché à la mosquée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Waradulan. Deux hommes qui se sont aimés pour Allah. Ici on va parler d'une des meilleures adorations. Le fait d'aimer ses frères pour Allah. Tu l'aimes juste parce que c'est un musulman. Pas parce qu'il va te rapporter un bien, non. Juste parce qu'il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit de ton pays. Qu'il ait talent, qu'il n'ait pas talent, qu'il ait une belle apparence ou une autre, à partir du moment où c'est ton frère, fille-là, tu l'aimes. Deux hommes qui se sont aimés pour Allah. Ils se sont réunis pour lui et se sont séparés pour lui. Ces gens-là seront sous l'ombre du trône du tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Allah, le jour du jugement dernier, dira « Où sont ceux qui se sont aimés pour moi ?» Aujourd'hui, je les mettrai sous mon ombre, le jour où il n'y a aucune ombre. Aucune autre ombre, si ce n'est celle-ci, la mienne, et c'est l'ombre du trône. Donc bonne nouvelle à ceux qui aiment leurs frères. À ceux qui aiment leurs frères, ne les aimant que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, savez-vous comment est-ce qu'ils seront ressuscités, dans quel état? Ils seront ressuscités sur des chairs faites de perles précieuses, sur des grands trônes faits de perles précieuses. Lorsque les prophètes et les martyrs vont voir cela, ils vont les envier. Subhanallah. Les gens, lorsqu'ils vont voir ça, ils pourraient se dire, ce sont les places des prophètes, ce sont les places des martyrs. Non. Les prophètes et les martyrs vont les envier. Lorsqu'un bédouin a entendu cela, toi tu as entendu ce hadith, qu'est-ce que ça t'a fait? Maintenant, je vais t'informer de la réaction d'un bédouin, un arabi. Les arabis sont décrits en général comme ayant une dureté, car ils habitent loin des villes, ils n'ont pas reçu la science et la même éducation. Un bédouin est tombé sur ses genoux lorsqu'il a entendu ce hadith. Des hommes qui seront ressuscités sur des chairs faites de perles précieuses. Les prophètes vont les envier, les martyrs vont les envier. Il est tombé sur ses genoux. Devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, sifhum lana. Décris-les-nous afin qu'on puisse savoir qui sont-ils. Qui sont-ils, nos messagers d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont des hommes qui viennent de contrées différentes. Ils ne viennent pas du même pays. Ils n'ont pas la même langue. Ils viennent d'endroits différents. À la base, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils se sont aimés pour Allah. Se réunissent pour Allah. Ils l'évoquent. Ils l'évoquent. Fala ilaha illallah. Natamanna. Natamanna. Bel narju. Min Allah subhanahu wa ta'ala. Akram al-akramin. سميع الدعوات ومجيبها أن يحشرنا كذلك وما كان عطاء ربك محظورا. Et c'est Allah Azza wa Jalla qu'on demande d'être sur ses trônes, sur ses chairs de perles précieuses, le jour dernier. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Ensuite, parmi ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, un homme qui a reçu les avances d'une femme, elle l'a appelé à commettre le péché avec lui, elle a essayé de le séduire et de le faire tomber dans les péchés. Cette femme-là a un haut rang ou bien est d'une noble classe sociale. Et elle est séduisante. Mais cet homme a répondu, j'ai peur d'Allah, je crains Allah. Il a refusé de commettre le péché. Alors que c'est elle qui l'a invité à cela. Mais par peur d'Allah Azza wa Jal, il a ressenti le regard d'Allah, il a dit j'ai peur d'Allah. Et a délaissé le péché. À l'image de Yusuf alayhi salam, قالت هل تلك قال معاذ الله. Lorsque la femme de l'Aziz l'a appelé au péché, il s'est rappelé d'Allah et a délaissé cela. Et à l'image d'un des trois hommes qui était dans la caverne qui a été refermé par un gros rocher, lorsqu'il a fait des avances à la femme qu'il aimait le plus, puis lorsqu'un jour de disette et de faiblesse, elle a accepté cela. Il lui a préparé une grosse somme d'argent. Et lorsqu'il s'est retrouvé sur elle, comme l'homme se retrouve sur son épouse, elle lui a dit, crains Allah, il ne fait cela que dans le halal. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Et s'est rappelé d'Allah. Il s'est relevé, il ne l'a pas touché, il s'est rappelé d'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ورجل تصدق فأخفاها أي صدقته حتى لم تعلم يمينه ما أنفقت به شماله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un homme qui a donné l'aumône de manière tellement caché, c'est-à-dire tellement qu'il a voulu être sincère. Donc il a donné l'aumône avec la plus grande discrétion, au point où sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné. Subhanallah. Dans une version, au point où sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné. Certains savants disent que le rawi a inversé. D'autres disent non, il n'a pas inversé. Mais cet homme-là sait que le regard des gens est posé et basé sur quoi ? Et poser la main sur sa main droite, parce que c'est la main qui agit, c'est la main qui prend, c'est la main qui donne. Alors, il n'a pas voulu être vu des gens. Il a donc utilisé à la place de sa main droite sa main gauche, pour que personne ne le voie. Et ça, subhanallah, c'est le tarji' de Al-Allama Muhammad Cheikh Abiyah Muhammad Salim, le plus grand élève de Cheikh Muhammad Al-Amin Shinqifi, rahimahullah ta'ala, un grand savant qui était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنًا يَا لَهُ مِنْ مَنْظَرٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et un homme. Et ici, quand j'ai un homme, c'est l'Arlam. C'est yani Mada, plutôt Yashmal ibn Nisa. Ici on dit un homme, mais en vrai ça englobe également les femmes. La base, lorsqu'il y a un texte, c'est que ça englobe tout le monde. Tant qu'il n'y a pas une preuve, pour montrer que c'est propre à l'un des deux. Par exemple, lors de la prière, le fait de mettre un hijab, c'est propre aux femmes car il y a un texte. Par exemple, le fait de se marier avec un wali, c'est propre aux femmes car il y a un texte. Le fait de voyager avec un mahram, obligatoirement, c'est propre aux femmes car il y a un texte. Wa halumma. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme qui a évoqué Allah alors qu'il était tout seul, alors qu'il était en aparté, il a fondu en larmes. Littéralement, il a fondu en larmes. Fadat ayna. Et ici, on nous montre que c'est sans takalluf. Il n'a pas amené ses pleurs lui-même. Il ne s'est pas forcé à pleurer lui-même. Il n'a pas crié et élevé sa voix, comme on peut voir dans les nuits de Salat al-Tarawih. Les gens pleuraient, élevaient la voix, criaient. Non. Ma kanat hadi as-salaf hadi. Ça n'était pas la voix des pieux prédécesseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il pleurait, il se contenait. Et c'était comme s'il y avait une marmite portée à ébullition. Et il y avait beaucoup de larmes qui coulaient. Par moments, ça remplissait sa barbe. Par moments, son torse. Et par moments, même, ça tombait sur la terre. Ça tombait par terre, subhanallah. On entendait des voix par moments lorsque les compagnons pleuraient. Mais de crier, cela ne fait pas partie de la voix des gens qui avaient plus peur de nous qu'Allah. Plus peur d'Allah que nous. Donc cet homme-là ne s'est pas forcé, mais ce qu'il a trouvé dans son cœur et sa méditation l'a amené à se retrouver dans cet état-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans un hadith que le feu dans l'enfer ne touchera pas, ne brûlera pas le visage de celui dont les larmes ont coulé par crainte d'Allah. Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ici, on ne nous dit pas en public, on nous dit alors qu'il était tout seul. Ça nous montre la sincérité, ça nous montre qu'il ne recherche pas le regard des gens. Ils ne recherchent pas le regard des gens. Les sahaba pleuraient en public parce que leur foi était forte ou bien parce qu'ils entendaient des choses touchantes. Mais chez eux, ils étaient pareils. Et nous, par moments, lorsqu'on est en groupe, la foi augmente, la foi est forte. Les larmes coulent. Mais lorsqu'on sort de la mosquée, on oublie beaucoup. On oublie beaucoup. Et on va à nos occupations. La dunya et ce qu'elle contient comme femme, comme enfant, comme loisirs et autres. Alors que eux, ils repartaient vers leur famille, leurs épouses, ils s'amusaient de temps à autre. Mais, lorsqu'ils étaient en privé, ils se rappelaient d'Allah également. Ils se levaient et donnaient une part de leurs adorations en privé. Et ça, c'est la base. Al-Nawafil, c'est en privé. Un des plus près des sœurs était dans la mosquée, en train de prier. Puis il s'est mis à pleurer énormément. Un autre est passé parmi les savants. À la fin de sa prière, il lui a dit, « Anta ans. لو عملت هذا في بيتك سبحان الله انظرها للنصيحه. Le savant, un savant a croisé un homme dans la mosquée qui pleurait à chaud de là. Puis suite à cela, il lui a dit, tu es le meilleur. Anta'an, c'est une expression pour dire il n'y a pas mieux que toi. C'est pour vanter le mérite de la personne, c'est pour montrer qu'il fait une chose très très bien. Puis il lui a dit, si seulement tu avais fait ça chez toi. C'est-à-dire, ça aurait été meilleur pour toi, plus proche de la sincérité et plus loin de l'ostentation. Donc ces gens-là seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va conclure avec deux mas'alas. La première mas'ala, même on a compris que les gens seront ressuscités et ils seront nus. Men awwal man yuksa yawm al-qiyamah. Qui est le premier qui sera habillé le jour de la résurrection? Qui est le premier qui sera habillé le jour de la résurrection? La question vous est destinée, celui qui veut répondre, comme chaque personne ayant un bon comportement, il lève la main. Mais avant cela, j'interroge mon ami et mon petit frère, Adam. Adam, hafidhak Allah, wa atala Allah amrak, ala tawhid wa ala sunnah. Sais-tu quel est le premier qui sera habillé le jour de la résurrection? Tu sais pas? D'accord. Est-ce qu'il y a un autre enfant dans la salle? Il n'y a pas de bruit, donc je pense qu'il n'y a pas d'enfant, sauf des enfants très très bien éduqués. Taïb. Qui est-ce qui peut répondre? Tafadbal. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam.
Est-ce que tu as une preuve qui démontre cela? Tu crois? Dans la aqidah, on croit jamais, on est sûr. Tu as lu ça dans un hadith. Naam, barakallahu fik. Al-iman yaqoum ala al-yaqin. La foi, c'est la certitude. Comme le frère a dit, cela a été affirmé dans un hadith. Où ça? Dans le recueil d'Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le premier qui sera habillé le jour du jugement dernier est Ibrahim. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, parle d'une mas'ala. Est-ce que ça veut dire qu'il va être habillé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Voyez, ça c'est ce qui est apparent dans le hadith. Mais il nous dit, wa khususiyatu dhalik li Ibrahim alayhi salam. لا يعني ذلك أنه أفضل من النبي صلى الله أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. ثم يعلل ذلك يقول هذا لأنه قيل أنه لما أرمي في النار جرد عن ثيابه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit le premier qui sera habillé le jour de la résurrection est Ibrahim. Quelle est la sagesse de cela? Certains parmi les savants ont dit parce que lorsqu'on l'a jeté dans le feu, on lui a enlevé ses vêtements. On lui a enlevé ses vêtements. Alors Allah Azza wa Jalla pour Maza pour élever son rang Yawm al-Qiyamah et le récompenser devant la patience qu'il a eue, il va le vêtir en premier. D'autres ont dit, Ibrahim a.s. est le premier qui sera habillé car c'est le premier à avoir mis As-Sarawim. C'est le premier à avoir mis As-Sarawim. Ce qu'on pourrait traduire par les pantalons. Ce qu'ils mettent au Maroc et dans d'autres pays. Pantalons amples. Et ne comprenez pas de cela que Ibrahim a.s. est meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Car on peut donner une particularité à un homme sans pour autant qu'il soit meilleur qu'un autre, même si ce deuxième n'a pas la particularité du premier. Et d'autres parmi les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit cela, il ne s'est pas rentré dans la généralité. C'est-à-dire que le premier qui sera habillé est Ibrahim parmi les gens, mais après moi. Est-ce que vous avez compris? Donc comme pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier. Walakin fil haqiqa, as-salama fi akhdhi adh-dhahir. Le mieux c'est de prendre ce qui est apparent. Le mieux c'est de prendre ce qui est apparent. Donc on dit que le premier à être habillé, c'est Ibrahim alayhi salam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne veut pas dire qu'il est mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit Ana sayyidun nas, Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Je suis le meilleur des gens, je suis le meilleur des fils d'Adam, sans me vanter. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala dit une belle parole. Il dit Al-Fada'il la yus'alu anha. Ibn Uthaymin a dit lorsqu'il y a des privilèges, on ne doit pas demander pourquoi et pourquoi. Parce qu'Allah dit dans le Coran Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Voici le bienfait d'Allah, il le donne à qui il le veut. Et Inch'Allah, dans mon prochain cours qui aura lieu avant l'Asr, on continuera Inch'Allah. Et on expliquera comment les gens seront. Avant le Maghrib. Barakallahu fikum. Avant le Maghrib, on reprendra sur la manière dont seront ressuscités les mécréants. Comment est-ce qu'ils sont ressuscités? Est-ce qu'ils sont ressuscités comme tout le monde sur leurs pieds, debout, comme vous voyez le frère marcher? Est-ce qu'ils seront comme ça ou d'une autre manière? C'est ce qu'on verra, Inch'Allah ta'ala, avant le Maghrib. Et sachez qu'après Al-Asr, directement après la prière de Al-Asr, il y aura la suite de l'étude du livre d'Ibn Abi Zayd qui sera donnée dans le cours de notre cher frère bien-aimé Saada Waffaqahullahu Ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.